Je vais maintenant présenter la conférence de ce soir. Elle sera donnée donc par Marie-Claire Bergère. C'est sur le thème « Les tribulations du capitalisme en Chine au XXe siècle ». Marie-Claire Bergère est née en 1933. Elle est historienne et sinologue, agrégée d'histoire et de géographie, docteur ès lettres et sciences humaines de l'Université Paris 7. De 1974 à 1997, elle a été professeure de civilisation chinoise à l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO. De 1978 à 1994, elle a été aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et depuis 1997, elle est professeure émérite des universités à l'INALCO. Marie-Claire Bergère a travaillé sur la bourgeoisie en Chine et elle s'est intéressée aux différentes tentatives de mise en place de systèmes capitalistes dans la Chine du XXe siècle. Elle a publié de nombreux articles dans des revues nationales et internationales spécialisées. Elle est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Ces ouvrages, vous pourrez en trouver la bibliographie sur les sites internet, mais j'en cite quelques-uns. « La bourgeoisie chinoise et la révolution de 1911 », Paris, La Haye, 1968. « L'âge d'or de la bourgeoisie chinoise », 1911-1937, chez Flammarion, en 1986. La République populaire de Chine de 1949 à nos jours chez Armand Collin en 1989 et enfin publication plus récente, La Chine au XXe siècle chez Fayard et une histoire de Shanghai parue aux éditions Fayard en 2002. Je lui donne donc la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite elle répondra à vos questions. Merci.
Merci, monsieur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des tribulations du capitalisme en Chine. Tribulation, le mot évoque mésaventure, mise à l'épreuve. Il suggère bien l'histoire mouvementée du capitalisme en Chine. Une histoire pleine de faux départs, d'avortements, de redépart. Une histoire longue qui ne s'étend pas seulement sur le XXe siècle, mais qui remonte jusqu'au XVe, XVIe siècle. Époque à laquelle apparaissent ce que les historiens chinois ont appelé des germes de capitalisme, c'est-à-dire que dans certaines régions se développe une économie caractérisée par la commercialisation des produits agricoles, la spécialisation de la production artisanale, la sophistication des systèmes financiers et de paiement, le travail à façon contrôlé par des marchands dans les ateliers, à la campagne, etc. C'est-à-dire toute une série de phénomènes assez parallèles à ceux qui sont présents en Europe au XVIe ou XVIIe siècle. Mais, à la différence de l'Europe, ce mouvement ne débouche pas sur une révolution industrielle ni sur des formes modernes de capitalisme. Beaucoup de raisons ont été avancées. L'intervention étrangère, en particulier l'impérialisme occidental qui fait irruption en Chine au milieu du XIXe siècle, une crise interne très grave qui apparaît dès le début du XIXe siècle en Chine liée à l'expansion démographique et au poids relatif de la population sur les terres arables disponibles. On peut aussi invoquer des phénomènes d'involution. Dans certaines régions d'Europe aussi, il y a eu des phénomènes de proto-industrialisation qui n'ont pas débouché sur la révolution industrielle et le capitalisme industriel, comme l'a bien montré l'historien Pierre Jeannin. Nous n'entrerons pas dans ces débats, ils ne font pas partie de notre sujet. Mais je voudrais simplement retenir que lorsqu'au milieu du XIXe siècle, les Occidentaux débarquent en Chine, ils ne se trouvent pas face à une belle au bois dormant, ils ne se trouvent pas face à une société, à une économie stagnante. Leur influence, qui sera profonde, va s'exercer dans un milieu très structuré, un milieu commercial très structuré par des réseaux, réseaux commerciaux, réseaux financiers, sophistiqués, sur lesquels les Occidentaux vont s'appuyer et avec lesquels aussi, naturellement, ils vont entrer en concurrence, c'est-à-dire avec lesquels ils vont passer de nombreux compromis. De cette adaptation réciproque, va naître le capitalisme moderne qui s'épanouira en Chine au début du XXe siècle. Si nous voulons étudier, comme c'est notre objet ce soir, les limites de ce capitalisme et ses limites chronologiques, elles sont plus vastes que le XXe siècle. En fait, dès le milieu du XIXe, dès l'ouverture par la force de la Chine aux Occidentaux, et l'évolution va durer, l'évolution du premier capitalisme chinois va durer environ un siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à la révolution de 1949. Cette évolution séculaire, donc, sera commandée par trois facteurs, Tout d'abord, la présence étrangère, dont la modalité a été définie par les traités d'ouverture. La Chine, je vous le rappelle, n'est pas un pays colonial, c'est un État souverain, affaibli mais souverain. Donc il y a toute une série de traités passés entre cet État et les Occidentaux pour préciser les modalités de la présence étrangère. Cette présence étrangère sera localisée sur les côtes, sur la côte est naturellement de la Chine, dans un certain nombre de ports ouverts. Elle sera favorisée par une série de privilèges fiscaux, douaniers, statuts juridiques, etc. Donc ça, c'est le premier facteur. Le second, c'est le pouvoir d'État. Un pouvoir d'État central déclinant. La présence, l'ouverture de la Chine coïncide avec le déclin de l'Empire chinois jusqu'en 1911, et après l'établissement d'une république impuissante, qui en 1927 fait place à une dictature inachevée, celle de Chiang Kai-shek. En revanche, le pouvoir d'État local reste puissant, c'est un pouvoir autonome souvent, opportuniste, mais qui joue son rôle dans le développement du capitalisme. Troisième facteur, celui de la société, une société, encore une fois, très structurée, où les marchands et la classe commerciale n'ont pas un statut très élevé, au contraire, mais elle vient bien après les lettrés, les propriétaires terriens, les paysans, donc elle est au bas de l'échelle, théoriquement. Mais en fait, les marchands riches sont des notables et leur influence est à la mesure de leur organisation, qui sont très nombreuses, guildes de métiers, associations régionalistes, réseaux divers. L'interaction de ces diverses forces va favoriser l'émergence de formes successives du capitalisme. Alors, dans la seconde moitié du XIXe siècle, on a affaire à un capitalisme bureaucratique qui se développe à l'initiative de hauts fonctionnaires locaux, non pas du pouvoir central, mais de ses hauts fonctionnaires locaux, c'est-à-dire en ordre un peu dispersé, dans une province et dans une autre. Et ces hauts fonctionnaires s'appuient sur des marchands, c'est-à-dire que les entreprises modernes qu'ils créent sont des entreprises mixtes, dont la plupart vont échouer assez rapidement. Dans le premier quart du XXe siècle, succède un capitalisme privé. C'est l'apogée, l'âge d'or du premier capitalisme en Chine, qui s'étend donc sur le premier quart du XXe siècle, mais plus particulièrement de 1910 à 1927. Lui succédera un capitalisme d'État dégradé sous la dictature de Chiang Kai-shek par la corruption et qui devient ce que les Anglais appellent le crony capitalisme, un capitalisme de copains qui implique essentiellement les entourages gouvernementaux. Ici, l'accent va être mis sur le capitalisme privé tel qu'il s'épanouit à l'âge d'or, c'est-à-dire donc dans le premier quart du XXe siècle, parce qu'il va nous servir de référence pour étudier le capitalisme actuel. Les autres aussi pourraient servir de référence, mais enfin celui-là est une référence plus positive sans doute. Le passage à la révolution industrielle s'amorce au début du XXe siècle, dans les ports ouverts, de façon très ponctuelle. Il y a un développement différentiel très marqué entre la côte ou certains points de la côte, comme Shanghai, Canton, que vous devez voir sur ces cartes, qui est affiché, et l'intérieur du pays, qui reste non développé. Ce développement s'opère à l'initiative des étrangers, qui, à partir de 1895, par le traité de Shimonoseki, qui met fin à la première guerre sino-japonaise, ils ont reçu le droit d'établir des industries. Jusqu'ici, ils n'avaient le droit que d'établir des commerces. Et à l'initiative aussi des entrepreneurs chinois. Donc il y a un mouvement à la fois venu des étrangers et des entrepreneurs. Le développement est favorisé après la révolution de 1911, le développement du capitalisme chinois, proprement dit, non pas du capitalisme en Chine, mais du capitalisme des entrepreneurs chinois, est favorisé après la révolution de 1911 par l'effacement d'un pouvoir central qui était tatillon dans ses contrôles et souvent paralysant pour les entrepreneurs. Avec l'établissement d'une république très affaiblie, ces contrôles vont disparaître. Et dans un premier temps, cet effacement va donner un grand élan au capitalisme privé. Après 14, ce capitalisme chinois va aussi bénéficier de l'effacement de la concurrence étrangère en Chine. La plupart des entreprises ferment, ou bien les patrons de ces entreprises sont rappelés dans les métropoles, participent à la Première Guerre mondiale, si bien que le marché chinois s'ouvre très largement aux entrepreneurs chinois. L'essor du secteur moderne est alors extrêmement rapide, du secteur industriel en particulier. On a des taux de croissance industrielle qui se maintiennent aux environs de 14% par an entre la période 1912 et la période 1920. Ces taux extraordinaires rejoignent certains des taux récemment atteints par le développement industriel chinois. Les fortunes commerciales se construisent et se chiffrent en millions et en dizaines de millions de dollars chinois. À l'époque, il valait 10 francs, en 1919. Les principales initiatives dans la construction de ce système viennent de la société et des entrepreneurs privés eux-mêmes. Les autorités jouent un rôle très secondaire ou nul. C'est une modernisation spontanée, venue du bas, et ça explique un certain nombre de ses caractères. En particulier, le développement industriel va privilégier les industries légères. Le seuil d'investissement est plus faible, le bénéfice plus immédiat. Donc, les entrepreneurs privés veulent rentrer très vite dans leurs fonds et ce sont des industries textiles qu'ils vont créer, des industries de tabac, des industries alimentaires, ce genre d'industries. Ils vont aussi beaucoup investir dans la distribution. Les grands magasins vont connaître un essor particulièrement rapide en Chine et impressionnant. Accompagnant ce développement, apparaît une classe d'entrepreneurs dont l'origine sociale est très variée. Il y a des artisans, il y a des marchands, il y a beaucoup de compradors. Les compradors étaient les partenaires des sociétés étrangères, ceux qui servaient d'interface entre les compagnies étrangères et le système commercial, les réseaux commerciaux chinois de l'intérieur. En fait, les étrangers ne contrôlaient pas ces réseaux. Ils contrôlaient le commerce, les échanges extérieurs entre le port ouvert et les métropoles. Et les Chinois contrôlaient les échanges et le mouvement des marchandises et des fonds entre le port ouvert et l'intérieur des provinces chinoises. Donc le port ouvert servait d'interface et les compradors étaient des agents essentiels de leur activité puisque c'était des Chinois qui travaillaient avec les étrangers, employés des étrangers, mais aussi très souvent partenaires des étrangers. Enfin, il y a d'anciens fonctionnaires, ceux qui avaient participé à cette première industrialisation bureaucratique par les bureaucrates, dont certains ont choisi de continuer dans la voie de l'entreprise plutôt que de continuer leur carrière officielle. Il y a aussi beaucoup de marchands venus d'outre-mer, en particulier des cantonais qui ont fait carrière au Vietnam ou en Australie, revenaient à Canton, puis ensuite revenaient à Shanghai pour créer des industries. Ils représentent un pourcentage important des entrepreneurs shanghaïens de l'époque. Donc cette classe s'affirme, alors que jusqu'ici les marchands enrichis ne rêvaient que de devenir mandarins, fonctionnaires, l'évasion sociale s'arrête progressivement. Cette classe s'affirme en tant que classe. Elle fait triompher un certain nombre de valeurs marchandes contre les valeurs des lettrés, des mandarins, et en particulier l'argent. L'argent qui était extrêmement méprisé dans la civilisation traditionnelle chinoise, un peu comme en France, on n'en parlait pas. Eh bien, l'argent devient une valeur positive. Cette classe est cohérente, regroupée dans des organisations professionnelles modernes, des chambres de commerce qui se créent très tôt, dès le début du XXe siècle, en 1904-5 à Shanghai. Et bien qu'il s'agisse d'organisations modernes où on adopte le vote majoritaire pour la prise des décisions et toute une série de procédures empruntées à l'Occident, en même temps, ces chambres de commerce et ces organisations s'appuient sur des solidarités traditionnelles, des réseaux de parentèle qu'elles suivent ou qu'elles transcendent selon les cas. Ces réseaux de solidarité jouent un rôle extrêmement important, je les ai déjà évoqués, mais dans un système où l'écrit joue encore très peu de rôle et qui repose essentiellement sur la confiance d'individu à individu, le fait de connaître les individus, de pouvoir les situer, est un fait essentiel, une condition essentielle des affaires. Il y a les solidarités régionales qui unissent les gens originaires de la même région. Dans les grands ports ouverts chinois, il y avait des communautés de marchands venus d'autres villes. À Shanghai, il y avait plusieurs dizaines de groupes d'associations régionalistes regroupant des marchands de Canton ou d'autres villes chinoises. Et ces associations régionalistes établissaient entre leurs membres des liens très étroits. Il y avait aussi des solidarités familiales, non seulement la famille immédiate, mais la parentèle, les familles par alliance, c'était de très grands réseaux. Ces solidarités avaient dans l'entreprise des fonctions multiples. Elles servaient au recrutement du personnel, non seulement les cadres, mais les employés. Comme ça, on était sûr de pouvoir leur faire confiance. Elles servaient à la levée des capitaux, à une époque où les organisations financières étaient extrêmement réduites, les entreprises modernes étaient très souvent financées par appel aux capitaux des divers membres de la famille ou des amis des divers membres de la famille ou des gens originaires du même village ou de la même région que vous. Donc il y avait là une manière de lever les capitaux qui était assez efficace. Ces solidarités servaient aussi au transfert technologique. Très souvent, les enfants des premiers patrons étaient envoyés à l'étranger avec mission de se spécialiser dans la technologie textile ou le tabac ou d'autres technologies. Et quand ils revenaient, c'est à eux qu'on confiait les directions techniques de l'entreprise. Dans les cas des premières générations de patrons, ils étaient parfois obligés de faire appel à des professionnels, des ingénieurs étrangers ou bien des ingénieurs chinois, mais qui n'appartenaient pas à leur réseau. Mais aussitôt qu'ils pouvaient envoyer des enfants, des fils, des neveux de leur parentèle à l'étranger, alors là, ils pouvaient revenir vers un recrutement familial. Il y avait donc des avantages à ces réseaux. Il y avait aussi des handicaps, naturellement. Les querelles de succession faisaient souvent échouer l'entreprise. Il y avait le népotisme, mais il était peut-être moins néfaste qu'on ne l'a dit, parce que comme les réseaux étaient très larges, eh bien, il y avait toujours moyen de choisir dans ces réseaux, parmi les grandes familles, les enfants doués qui pourraient conduire l'entreprise et mettre à l'écart les fruits secs. Ces réseaux, donc, à cette époque, n'apparaissent pas comme archaïsme, mais comme un ressort puissant du développement du capitalisme chinois. Ils n'empêchent pas de nombreux emprunts faits à l'organisation des entreprises étrangères, d'abord à la technologie étrangère, mais aussi au système de gestion fondé sur des hiérarchies impersonnelles, sur la rationalité économique à la Weber. Donc on trouve dans les entreprises chinoises ces emprunts et il y a une espèce d'amalgame. Il est assez curieux d'ailleurs de constater que l'on trouve dans les entreprises étrangères travaillant en Chine des emprunts inverses, c'est-à-dire qu'il leur arrive aussi de travailler comme les Chinois à partir de réseaux. L'obstacle au développement dans cette période vient finalement non pas de ce système d'organisation selon les réseaux, mais plutôt de l'absence d'État, d'un État capable d'assurer un cadre institutionnel, juridique, d'assurer la paix civile, d'assurer l'ordre public, si bien que l'appui que la bourgeoisie de Shanghai, la grande bourgeoisie de Shanghai, va prêter à Chiang Kai-shek en 1927, quand celui-ci se retourne contre les communistes et va liquider tous les syndicats et le parti communiste à Shanghai, un coup de force qui va marquer un épisode essentiel de la révolution chinoise. Eh bien, la bourgeoisie de Shanghai appuie ce coup d'État, non seulement par peur sociale, comme on l'a souvent signalé, mais aussi parce que ces bourgeois, ses patrons aspirent à un retour d'un pouvoir central, fort, qui puisse œuvrer en faveur du capitalisme. Ils seront déçus. La dictature militaire de Chiang Kai-shek et du Kuomintang est extrêmement hostile à l'entreprise privée et cette entreprise va souffrir à nouveau de la renaissance des contrôles et de la concurrence d'un capitalisme d'État privilégié par le gouvernement avec beaucoup de monopoles et la concurrence ne sera pas égale. Le déclin de ce capitalisme sera naturellement accéléré par la guerre sino-japonaise en 37-45, pendant laquelle le territoire est occupé, une grande partie des équipements productifs sont détruits ou transférés, le marché est fractionné, la Chine est divisée en territoires occupés, territoires libres contrôlés par Chiang Kai-shek, territoires disputés. Et ces désordres se prolongeront avec la guerre civile de 47 à 49. Enfin, la révolution de 49 et l'établissement du régime communiste mettront un terme définitif, pour l'instant, au développement du premier capitalisme chinois. Notons cependant qu'au moment où s'établit le régime communiste, le capitalisme et les capitalistes sont relativement épargnés. Il n'y a pas eu de liquidation physique, comme en Russie, ou bien comme en Chine, les propriétaires fonciers. Les entrepreneurs urbains ont été relativement préservés. Le parti communiste, qui venait de bases rurales, qui n'avait pas de compétences urbaines, ni dans la gestion des entreprises commerciales, ni industrielles, va solliciter la coopération des entrepreneurs et sauvegarder dans une certaine mesure leurs intérêts dans le cadre d'une politique qu'on appelle la politique de front uni. Cela ne durera pas très longtemps. Une fois que les communistes auront formé leur cadre et se sentiront assez forts, Ils vont liquider toutes les entreprises privées en 1956, les entreprises commerciales et industrielles. Mais les grands capitalistes, ceux du moins qui étaient restés en Chine, car beaucoup d'entre eux avaient émigré, ne seront pas liquidés, ils vont être mis à l'écart. Certes, ils continueront à toucher les dividendes, et cela jusqu'à la révolution culturelle. Des dividendes pas très élevés, mais enfin qui leur permettront d'avoir un train de vie très supérieur à l'ensemble de la population. Certains même seront intégrés au nouvel appareil en tant qu'experts dans les administrations économiques du parti et de l'État. Ce sont ceux que, dans le vocabulaire politique chinois, on appelle les capitalistes nationaux. Donc, c'est la fin du premier capitalisme chinois, mais ce n'est pas la fin absolue, car celui-ci va rejaillir, il va rejaillir à l'étranger. Au moment où la révolution triomphe, beaucoup d'entrepreneurs ont émigré, en particulier à Hong Kong, et le succès industriel de Hong Kong après la Seconde Guerre mondiale tient beaucoup à la présence de ces émigrés, en particulier des Shanghaïens, des patrons de l'industrie textile, qui sont partis avec leurs capitaux et aussi une partie de leur équipement. Avant leur arrivée à Shanghai, à Hong Kong n'était qu'un petit port d'entrepôt, pas tellement actif, il n'y avait pas d'industrie. Donc c'est à partir de ce moment-là que sa vocation industrielle commence. Même chose à Taïwan, encore que là, les entrepreneurs étaient moins nombreux à émigrer, étant donné les mauvaises relations qui existaient entre le Kuomintang et ses entrepreneurs. Trop souvent, les problèmes du développement de ce premier capitalisme, disons, ont été abordés dans des perspectives étroites, qui étaient celles qui dominaient l'historiographie chinoise et l'historiographie des étrangers sur la Chine, et qui était celle de l'histoire de la révolution chinoise et des causes de la révolution. Et dans cette optique, il était d'usage de dénoncer de façon presque rituelle la faiblesse et le retard du capitalisme et de la bourgeoisie en Chine. Or, l'histoire de ce premier XXe siècle chinois déborde celle de la révolution. Et c'est pour ça que j'ai tenu à insister sur la vitalité de ce capitalisme. Et sans référence à cette histoire, il est difficile de comprendre les formes, le dynamisme du capitalisme chinois actuel. Donc, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, dans la période plus contemporaine, où on assiste à la renaissance et à l'épanouissement du capitalisme chinois depuis 1979, c'est-à-dire depuis que s'est ouvert l'ère des réformes et qu'a été lancée la politique de modernisation par Deng Xiaoping. C'est une tradition retrouvée qui apparaît, une tradition retrouvée, mais aussi, comme toutes les traditions retrouvées, une tradition recréée. Après la mort de Mao, Beaucoup de pratiques anciennes ont été remises à l'ordre du jour. C'est ce que j'ai appelé, jadis dans un article, le retour du vieil homme. Mao avait voulu créer un nouvel homme, un homme nouveau, et avec paré de toutes les vertus révolutionnaires. Mais après sa mort, on a vu revenir les anciennes pratiques, les anciennes coutumes et beaucoup de choses qui appartenaient à l'ancienne société. On a vu revenir aussi cette modernité créée à l'époque de l'âge d'or du capitalisme, et en ce sens, les ponts ont été rétablis avec l'histoire pré-révolutionnaire. En un sens, l'épanouissement actuel du capitalisme chinois, c'est la reprise d'une évolution qui avait été mise en suspens par la rupture révolutionnaire de 1949-1979. À certains égards, cette rupture commence à apparaître comme une parenthèse. La liaison explicite avec cette histoire pré-révolutionnaire, elle est soulignée par les dirigeants eux-mêmes. Il y a une exploitation extrêmement consciente de l'héritage. Cela fait partie de la stratégie des réformateurs, en particulier de Deng Xiaoping, surtout au début de la période des réformes, à une époque où la voie est extrêmement peu balisée, où ils ont l'impression de s'engager dans une politique sans précédent, dangereuse, qui risque de compromettre leur pouvoir et dont on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle va conduire. Donc, ils vont rechercher une espèce de légitimation dans le passé. La figure de Sun Yat-sen, ancien dirigeant révolutionnaire, celui qui a conduit plus ou moins la révolution chinoise de 1911 et qui a été le premier président de la République chinoise en 1912. Donc d'habitude, enfin jusqu'en 79, il était présenté dans l'historiographie comme un précurseur, un pionnier de la Révolution, un précurseur de la Révolution. À partir de 79, il est présenté comme un pionnier de la modernisation et partisan de la coexistence d'un secteur privé et d'un secteur public, donc de la présence de l'entreprise privée. Et on voit la figure de Sun Yat-sen partout à ce moment-là, à côté de celle de Mao Zedong, de Lénine. Ensuite, il y a un appel au capitalisme, aux capitalistes historiques survivants. Un certain nombre d'entre ceux qui étaient restés en Chine, ces capitalistes nationaux, plus ou moins intégrés à l'appareil du parti et de l'État, vont se voir confier des tâches importantes dans la construction de ce nouveau secteur privé qu'on va laisser émerger. Alors c'est le cas par exemple d'un personnage très connu qui s'appelle Zhong Yijian. Zhong, il appartenait à une grande famille de filateurs de Shanghai. Tous les autres membres de sa famille étaient partis et lui, on l'avait laissé à Shanghai pour surveiller les intérêts de la famille autant que faire se pouvait. Et ensuite, il était resté à Shanghai, il était devenu un haut fonctionnaire du régime. C'est le cas aussi de membres de la famille Guo, c'était des cantonais, propriétaires de grands magasins à Shanghai. Toute la famille avait émigré, sauf l'un d'entre eux, Guo Diruo. Alors, ces gens-là vont recevoir des postes importants. Guo Diruo va devenir vice-gouverneur du Guangdong, avec mission d'attirer les capitaux de Hong Kong. Le Guangdong est la province qui est juste en face de Hong Kong. Et Zhong Yijian, lui, va être mis à la tête d'un organisme chargé d'attirer les investissements internationaux. Ce sera la CITIC. On fait appel aussi à travers eux à toute leur famille, tous ces entrepreneurs de la diaspora qui se sont dispersés. Le cas le plus typique est justement celui de la famille Zhong. Deng Xiaoping, en 1986, a invité à Pékin, au mois de juin 1986, 200 membres de la famille Zhong, des capitalistes venus du Canada, des États-Unis, du Brésil, de Hong Kong, des mers du Sud, enfin d'un peu partout. Évidemment, ce n'était pas sans arrière-pensée. Donc, le lien est renoué avec l'ancien capitalisme, mais la tradition qui revient est une tradition qui est recréée, qui est infléchie par la situation contemporaine, en particulier la présence d'un État fort, ce qui n'était pas le cas en 1920, un État en tout cas capable d'assurer la souveraineté nationale, la paix civile, la stabilité sociale, un certain ordre public. Et aussi désireux de voir introduire des éléments de l'économie de marché dans l'économie socialiste à leur en place. Alors évidemment, cela pose des interrogations. Ce n'est pas tellement notre sujet, mais enfin, on peut indiquer au passage que l'échec relatif de l'économie socialiste, la fascination pour la réussite de l'économie occidentale, et en particulier dans ses versions asiatiques, pour le miracle asiatique qui bat alors son plein, ont sans doute été des motifs puissants. Toujours est-il que ce gouvernement va procéder à toute une série de réformes qui vont préparer le redéveloppement du capitalisme chinois. Correct. Bon, je vais passer assez rapidement, mais enfin commenter quand même un petit peu ces dates que je vous ai affichées. Le 79, donc, c'est le début de la réforme. Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir deux ans et demi après la mort de Mao. Et il va créer, en 79, des zones économiques spéciales, c'est-à-dire des zones où l'entreprise étrangère va pouvoir s'installer. Les opposants à sa politique, ils étaient nombreux à l'époque, ont crié à la recréation des concessions étrangères qui existaient jadis dans les ports ouverts, les ports de la côte. Donc, ça évoquait des précédents, disons. De 79 à 84, on a eu une décollectivisation de l'exploitation agricole et une libéralisation des activités rurales annexes, le commerce, le petit artisanat, et on a eu suppression des communes populaires. De 84 à 88, il y a eu extension de la réforme au secteur urbain, avec le début d'émergence d'un secteur non étatique dans l'entreprise urbaine. L'élan a été quelque peu coupé en 89, au moment de la répression de Tiananmen, et juste après, pendant l'année ou les deux années qui ont suivi, où les conservateurs ont dominé l'équipe dirigeante. La relance a lieu en 92 avec un fameux voyage de Deng Xiaoping dans le sud. Deng Xiaoping, dans une série de discours, va relancer la réforme urbaine. À partir de 94, elle va singulièrement s'accélérer sous l'impulsion de celui qui va devenir plus tard Premier ministre et qui est Zhu Zhongdi. Il y a là toute une série de mesures qui vont accélérer l'émergence de ce secteur non étatique. Et elle va culminer, ou du moins continuer à se développer en 2001 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC qui accélère l'intégration de l'économie chinoise à l'économie mondiale. Et en 2002, le récent congrès du Parti communiste a inscrit les trois représentations de Jiang Zemin dans les statuts du parti. Les trois représentations, c'est une expression de la langue de bois qui en fait désigne, pour aller vite, la légitimation de l'activité des capitalistes et de leur rôle dans la cité. Pour résumer cette évolution, je crois qu'il faut souligner la précocité des réformes dans les régions rurales, et c'est là que vont apparaître les premiers entrepreneurs privés dès les années 80. Ce seront des entreprises dans les bourgs, dans les villages. Il faut souligner la différence entre l'avant et l'après 89, le rythme beaucoup plus rapide après 89 qu'avant 89 de la réforme, et les changements d'objectifs. Avant 89, on veut améliorer le système existant en introduisant quelques éléments de marché. Le secteur non étatique est défini alors comme ayant un rôle complémentaire. Après 89, il s'agit vraiment de transformer le système, et le slogan « socialisme de marché » apparaît en 92. En 97, le secteur non étatique est déclaré un élément important de l'économie chinoise. Donc il y a là une évolution voulue, menée par l'État, à laquelle va répondre naturellement le développement de ce nouveau capitalisme. Dans ce nouveau capitalisme, on retrouve beaucoup de traits caractéristiques de celui de l'âge d'or, je les soulignerai ou vous les reconnaîtrez au passage, mais il faut bien d'emblée insister sur le fait que l'essor de ce nouveau capitalisme se poursuit à une toute autre échelle qu'en 1920. Ce n'est plus comme en 1920 un phénomène significatif, mais relativement marginal, confiné à quelques points dans les zones côtières. C'est une évolution de grande ampleur qui change le visage de toute une partie de la Chine. Ceux d'entre vous qui ont voyagé ont pu constater la métamorphose de villes comme Shanghai ou Pékin et qui infléchit le destin du pays tout entier. Alors, quels sont ces traits? C'est tout d'abord le dynamisme. Une croissance très rapide, une croissance annuelle de 8% par an, 7,5-8% depuis 1992 à 2002. Je prends les chiffres officiels, ils ne sont pas totalement fiables, nous n'allons pas ici commencer une critique de ces chiffres. Cette croissance est tirée par l'industrie manufacturière, qui a un poids de 51% dans le produit intérieur brut, et cette industrie manufacturière relève majoritairement du secteur non étatique. Pourquoi ce dynamisme ? Eh bien, il est dû, peut-être avant tout, à l'adhésion d'une large part de la population à la réforme venue d'en haut. La réforme venue d'en haut a connu un très vif écho dans la Chine d'en bas. La mobilisation de la population relaie, certains disent, inspire la politique des dirigeants. Moi, je dirais plutôt relaie la politique des dirigeants. Il y a un phénomène très général de passage à l'entreprise, ce que les Chinois ont appelé dans les premières décennies de la réforme le xiahai, le fait de se jeter à la mer des affaires. Et cette évolution s'accompagne d'une ardeur au travail renouvelée. Les Chinois redeviennent ce travailleur infatigable qu'il était, alors que dans les dernières années du règne de Mao, il y avait une démobilisation complète de la main-d'œuvre pendant et après la révolution culturelle. Donc, adhésion d'une large part de la population, les nouvelles valeurs s'imposent, qui comblent le vide laissé par le déclin de l'idéologie marxiste-léniniste et maoïste, et cette nouvelle valeur, c'est essentiellement l'argent. On se rappelle le slogan de Deng Xiaoping, « Devenez riche », il a été bien entendu. Il y a en Chine une fascination pour les nouveaux millionnaires, pour les self-made men qui ont réussi en partant de rien à devenir de grands entrepreneurs. Et il y a des biographies de ces personnages dans les journaux. Il y a même des livres, de très nombreux livres qui leur sont consacrés, ce sont devenus les nouveaux modèles. Ils ont remplacé les héros révolutionnaires complètement désintéressés du type Leifeng, qui se considérait comme une simple vis dans l'édifice national. Il y a aussi, qui sert l'élan de ce capitalisme, la nature de ce capitalisme, qui est vraiment un capitalisme sauvage, récent, peu réglementé. Quand il est réglementé, les règlements ne sont guère observés. C'est ainsi que les entreprises, très souvent, ne payent pas les cotisations patronales pour la sécurité sociale, pour les retraites, que les dispositifs de sécurité dans le travail ne sont pas observés, que la fraude fiscale fleurit, que la contrebande et la fraude aux douanes fleurit aussi. Donc il y a là toute une absence de réglementation qui, dans un premier temps, a certainement servi un certain nombre d'entreprises. Il y a aussi l'inexistence de partenaires sociaux, il n'y a pas de syndicats en Chine à cause de la méfiance du pouvoir politique à l'égard de toute force autonome. De toute manière, il y a tellement de main-d'œuvre disponible que les conflits du travail se terminent en général par le renvoi des employés ou des ouvriers peu dociles. Le parti n'est pas représenté dans les entreprises privées, ou bien alors il est de façon clandestine, mais de toute façon, ce n'a pas toujours été son souci de défendre les droits des travailleurs. Donc tout cela favorise un enrichissement rapide, et cela mène aussi à un capitalisme à la Dickens ou à la Zola, avec exploitation à outrance de la main-d'œuvre, y compris les enfants, les prisonniers, des bas salaires, des conditions de vie dans les ateliers où les gens sont serrés comme pas possible, peu de sécurité, il y a des accidents du travail très graves, etc., etc. Donc, un dynamisme avec des facettes variées, comme il y a 50 ans ou 75 ans maintenant, rôle capital de la participation étrangère. Mais à la différence de l'ancien impérialisme, cette participation, nous l'avons vu, elle n'est plus subie, elle est voulue par le gouvernement chinois qui en fixe les modalités. Il y a qui participe au développement de cette participation, l'enthousiasme des étrangers eux-mêmes, le mythe du marché chinois est plus ou moins vivant toujours. Il y a l'attrait des délocalisations qui permettent de faire fabriquer à bas prix un certain nombre de produits. 220 000 entreprises étrangères ou sino-étrangères, elles sont plutôt sino-étrangères en général, sont donc recensées en Chine en 1999. Ces entreprises qui relèvent du secteur non étatique assurent, ces entreprises étrangères ou sino-étrangères, 20 à 25% de la production industrielle nationale, 50% des échanges extérieurs. Ce sont des entreprises extraverties qui exportent la plus grande partie de leur production. Et la croissance chinoise du secteur économique est tirée par cette exportation, en dépit de la crise asiatique qui a mis quelques bémols. Comme le capitalisme du début du XXe, on a un développement privilégié des zones côtières, qui s'oppose au développement plus équilibré qu'avait voulu assurer le premier plan quinquennal en 1953, ou la politique maoïste dans les années 60. Et dans ces zones côtières, c'est naturellement le secteur non public qui prend de l'importance. Dans les régions intérieures, au contraire, le secteur public reste important, comme dans les années précédentes. Mais à la différence de ce qui se passait en 1920, les régions favorisées ne sont pas seulement quelques grandes villes, ce sont des provinces entières, c'est toute une série de provinces, ce qu'on appelle la côte dorée, qui va du Guangdong au sud, voilà, du Guangdong jusqu'aux côtes de la Mandchourie méridionale. Donc une dizaine de provinces côtières. La Chine compte au total 31 provinces ou unités administratives ayant rang de province. Certaines municipalités sont considérées comme provinces. Donc, 10 provinces côtières qui assurent entre elles 75% du commerce extérieur, 60% de la richesse nationale. Cette côte est insérée dans la division internationale du travail et non seulement elle produit beaucoup plus que le reste de la Chine, mais elle est beaucoup plus riche que le reste de la Chine. Les différences de niveau de vie sont extrêmement importantes entre cette côte et l'intérieur. Comme dans le premier capitalisme, on retrouve le rôle des réseaux de solidarité traditionnels pour les levées de capitaux, pour le recrutement de main-d'œuvre. En particulier, on a assisté à une mobilisation des réseaux des Chinois d'outre-mer, la diaspora de Hong Kong, Taïwan, Singapour, Nanyang, c'est-à-dire les mers du Sud, les Nanyang, ont gardé des liens étroits avec leur province d'origine, des liens qui ne sont pas toujours officiels, qui passent parfois simplement par les relations de famille ou autres. Leur province d'origine, c'est essentiellement les provinces du Sud, le Guangdong, le Fujian. Donc ils vont contribuer au développement de ces provinces. D'une façon générale, il y a initiation des Chinois à l'économie moderne à travers ces Chinois d'outre-mer qui servent d'intermédiaires. Simplement, ces Chinois d'outre-mer sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux, ils sont 50 millions, pas tous des entrepreneurs, mais ils sont à peu près 50 millions dans cette région. Ils sont aussi beaucoup plus puissants en général qu'ils ne l'étaient en 1920 d'un point de vue économique et financier. C'est eux qui ont donné un visage à cette entité qu'on appelait la Grande Chine et qui était en fait l'ensemble de ces réseaux qui parcourent le sud de la Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour, toutes ces régions d'Asie du Sud-Est et dont on a pensé à un moment que sa puissance économique, dépourvue de base territoriale, pouvait égaler celle du Japon ou des États-Unis. Elle a été quand même assez affaiblie par la crise de 1997, mais elle reste présente. Enfin, dernier point qui caractérise ce nouveau capitalisme, le retour des capitalistes. Comme en 1920, ils ont des origines sociales très hétérogènes. Dans un premier temps, c'est plutôt des tout petits entrepreneurs venant des couches populaires, des micro-entrepreneurs, des paysans, nous l'avons vu, des jeunes instruits qui avaient été exilés dans les provinces lointaines de la périphérie et qui, en revenant, ne trouvent pas de travail et à qui on laisse commencer une petite activité, mais en général très réduite. Quelques migrants, ces ruraux qui viennent dans les villes chercher du travail et qui parfois s'établissent à leur compte. Des chômeurs qui, licenciés du secteur public, essayent de s'établir à leur compte. Dans l'ensemble, il s'agit là de tout petits entrepreneurs. Il y a des experts, d'anciens techniciens du secteur public, des nouveaux diplômés qui ont les compétences requises, les gestionnaires et partenaires des entreprises étrangères, les intellectuels reconvertis aux affaires. Il y a d'anciens capitalistes, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont souvent un rôle assez important. Nous avons cité Jung tout à l'heure. Il y a aussi les milieux officiels, les gens de l'entourage des grands dirigeants, en particulier leurs fils, les petits princes, qui profitent de leurs relations pour développer leurs affaires. Il y a de hauts cadres, beaucoup d'anciens directeurs d'entreprises publiques qui ont repris l'entreprise à leur compte. Il y a des officiers, assez nombreux officiers de l'Armée populaire de libération qui, à un moment, a joué un très grand rôle dans l'entreprise. Les entreprises privées qui avaient beaucoup d'entreprises à leur compte. Donc, on voit qu'il y a à distinguer entre tous ces micro-entrepreneurs, ces petits entrepreneurs. Leurs entreprises sont très nombreuses, on en compte plus de 31 millions, mais elles sont très, très, très petites. C'est souvent des entreprises individuelles ou employant très peu de main-d'œuvre. Il y a des patrons de petites et moyennes entreprises, il y a des grands patrons de holding. On les connaît, ils sont des héros dans la presse. On connaît par exemple le roi des orchidées et des tulipes, Yang Bin, qui était l'homme le plus riche, le second plus riche en Chine. Et ils sont de plus en plus représentés dans la vie publique. On a laissé se reconstituer une fédération de l'industrie et du commerce en 79, qui regroupe tous les grands noms de l'entreprise et qui pèsent d'un certain poids, un poids relatif, car ils sont quand même assez contrôlés par l'État, mais parfois, ils sont écoutés. Alors donc, ils sont représentés dans la vie publique professionnelle, disons, et de plus en plus, ils sont appelés à prendre un rôle dans la vie publique, la vie politique, avec cette théorie des trois représentations qui a été énoncée par le président Jiang Zemin et avalisée par le parti lors de son dernier congrès. Le succès chinois, le succès de la transition chinoise du socialisme vers le capitalisme est donc marquant, transition graduelle, pragmatique, qui a donné souvent l'impression de chaos, mais dont les résultats se sont affirmés avec une force croissante. Le modèle est apparu à certains comme plus satisfaisant que la thérapie de choc préconisée par les libéraux orthodoxes en Russie et dans les pays d'Europe de l'Est. Il n'y a pas eu de plan global, il n'y a pas eu de bing-bang, il y a eu une accumulation de transformations partielles. On a même évoqué le défi théorique que pose l'expérience chinoise. Avant de songer à relever un tel défi, il faut examiner cependant plus attentivement le capitalisme né d'une telle transition. Et ce sera mon dernier point. Donc, capitalisme cynisé ou capitalisme dévoyé, Le fonctionnement du capitalisme chinois s'écarte sur bien des points de celui dont nous avons l'habitude. On a la tentation d'y voir une déviation par rapport à un modèle qui serait le modèle occidental, modèle universel, donc déviation et dégradation, ou bien au contraire, on peut y voir une adaptation créatrice, porteuse de sa propre logique dans un environnement culturel spécifique. Les contours du capitalisme chinois tel qu'il se présente actuellement sont extrêmement flous. On voit bien émerger un secteur non étatique, mais parallèlement, il n'y a pas ce que les Chinois appellent clarification des normes de propriété. J'évoquerai ici rapidement l'expérience d'un de mes collègues, David Wang, W-A-N-K, auteur d'un essai sur la transformation du système de production dans la Chine communiste. Il a décidé de faire une enquête sur les entrepreneurs privés à Xiamen, qui est une ville en face de Taïwan, sur la côte du Fujian. Arrivé sur le terrain, je fus incapable d'identifier les entreprises privées. Certains entrepreneurs, qu'on m'avait présenté comme étant à la tête d'une entreprise privée, prétendaient que leur entreprise était publique. D'autres disaient que leur compagnie était mi-privée, mi-publique. Quelques-uns, enfin, se réclamaient d'un statut différent d'une interview à l'autre. Donc, il est certain qu'il y a là un très grand flou. Et le secteur, ce qui rend très difficile d'ailleurs l'utilisation des statistiques chinoises, le secteur qu'on appelle non étatique par prudence est en fait un secteur qui inclut des formes d'entreprises très variées. Alors, il y a dans ce secteur non étatique un secteur collectif, environ 3 millions d'entreprises, qui sont possédées ou gérées, la gestion est aussi importante que le droit de propriété comme critère, par des entités administratives en collaboration avec des individus. Elles ont eu un rôle très important au début, plus stagnant maintenant. Parfois, ce statut recouvre de vraies entreprises privées qui, ayant peur de n'avoir pas d'appui officiel, ont décidé d'avoir un chapeau rouge et se sont donc mis un chapeau rouge sur la tête en s'inscrivant comme entreprise collective. Le secteur privé à proprement parler comprend des entreprises individuelles, dont on a déjà parlé, donc des micro-entreprises, les entreprises étrangères et sino-étrangères, des entreprises privées chinoises, où le capital normalement est détenu par des intérêts privés, et enfin une curieuse catégorie qui s'appelle entreprises à gestion privée, et il s'agit en général d'entreprises de haute technologie fondées souvent par des laboratoires d'État, des universités pour exploiter les découvertes des savants et qui théoriquement restent supervisées par ces unités administratives que sont ces laboratoires, ces universités qui en fait sont gérées comme des entreprises privées, ce qui pose des problèmes au moment de la distribution des bénéfices. Donc il y a là un secteur extrêmement flou avec beaucoup de chevauchements. Et le critère est finalement retenu par les Chinois eux-mêmes. Dans la pratique, c'est plutôt le style de gestion que le droit de propriété. Donc, ce caractère assez flou, cette non-définition, tient évidemment au caractère inachevé de la réforme. Ça a été une réforme graduelle, mais elle a laissé pour la dernière étape, l'étape la plus difficile, c'est-à-dire la réforme du cœur du système. Maintenant, persiste encore un secteur public qui est composé des plus grandes entreprises du secteur public, lesquelles ont été mises sous le contrôle direct des ministères centraux, gardent le monopole de certaines branches, le pétrole, l'acier, l'équipement militaire, les télécoms, etc., gardent pour l'instant, dont l'État a effacé les dettes et dont il favorise la levée de capitaux sur les marchés internationaux. Ailleurs, l'État s'est désengagé, en particulier dans les PME du secteur public. Mais la restructuration de ce secteur a été confiée aux autorités locales. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais au cours de cette restructuration, finalement, ce sont souvent ces autorités ou les gens travaillant en accord avec ces autorités qui ont pris le contrôle de ces anciennes PME, sauf lorsqu'elles étaient vraiment tellement endettées qu'on ne pouvait plus rien faire, alors on les a ou bien vendues ou bien données à des repreneurs privés. Mais les autres ont été très souvent gardées sous le contrôle des autorités locales ou bien d'entrepreneurs qui était en alliance avec les autorités locales. Ce qui a freiné aussi le développement du secteur privé, c'est l'échec de la réorganisation bancaire de 1994. Les banques sont toujours contrôlées par les autorités locales. On avait essayé de les recentraliser pour les faire échapper aux pressions des autorités locales. Et ces autorités pratiquent des prêts politiques en faveur des entreprises qu'elles contrôlent. Donc cela rend très difficile l'accès des crédits bancaires aux entreprises privées. Et cela conduit à une accumulation de créances que l'on peut dire douteuses, mais il ne fait aucun doute qu'elles ne seront jamais remboursées et qui atteignent plus de 500 milliards de dollars et qui mettent en péril le système bancaire lui-même. C'est un des gros problème qui se pose actuellement en Chine. Donc, au total, on a bien un recul du secteur public à la suite de la réforme. Désormais, il n'assure plus que 20% de la production industrielle. Il a aussi beaucoup diminué le nombre de ses employés. Il a effectué 37 millions de licenciements, 37 millions entre 1997 et 2000. Donc, il n'assure plus que l'emploi de 11% de l'ensemble de la main-d'œuvre active, y compris main-d'œuvre agricole. Mais on ne peut pas dire que le recul du secteur d'État coïncide avec une montée symétrique du secteur privé et du capitalisme. Il y a aussi les bureaucraties locales, les féodalités locales composées d'entrepreneurs et de bureaucrates. Dans ce contexte, il est difficile pour les entreprises privées de se développer au-delà d'une certaine taille. Il y a l'arbitraire des bureaucraties locales, il y a l'absence de recours, un cadre institutionnel encore très immature, une réglementation lacunaire, le manque d'indépendance des tribunaux. Il y a le problème aigu du financement, pas de crédit bancaire, puisque ceux-là sont contrôlés par les autorités locales et réservés aux entreprises liées à ces autorités, donc difficulté d'accès au crédit bancaire, difficulté d'entrer en bourse. Et pour entrer en bourse, il y a des quotas, il faut une autorisation officielle, et ces entrées en bourse sont généralement réservées aux grandes entreprises de ce qui reste du secteur public. D'où un mode particulier de fonctionnement du capitalisme chinois. Ce n'est pas seulement un problème de culture, c'est aussi un problème d'adaptation au contexte. Les relations interpersonnelles ont pris priorité sur des démarches formelles, contractuelles ou juridiques qui, très souvent, n'aboutissent pas. Et l'art des relations sociales, ce qui en Chine s'appelle guanxi sui, est devenu quelque chose de primordial. C'est une notion très ancienne que cet art des relations sociales, ça remonte à Confucius et à la création d'un lien social entre les hommes, d'humanité, de générosité. Dans l'époque moderne, à l'époque actuelle, c'est plutôt l'art d'activer des réseaux de solidarité par des échanges de dons et la création d'obligations réciproques. Si on ne peut pas obtenir les choses par une voie légale et formelle, on va les obtenir d'une autre manière. Cette pratique est systématisée par la recherche du profit, qui est une recherche frémétique, et elle devient un des principaux ressorts du capitalisme chinois pour lever les capitaux, pour développer des marchés, pour obtenir des protections officielles, car ça, c'est une des préoccupations essentielles de ces capitalistes. Si bien que très vite, l'art des relations sociales dérive vers le développement d'un clientélisme politique à l'échelle locale, à l'échelle centrale, avec de vastes réseaux de patronage. Et à partir de là, il est facile de franchir la ligne entre art des relations sociales et corruption, crime économique, activité mafieuse. L'ampleur des réseaux qui fonctionnent ainsi se révèle de temps à autre à l'occasion d'affaires, de grands scandales, de temps à autre. On attrape un personnage important et à l'occasion de son procès, on voit se dérouler tous les fils de ces réseaux. Ça a été le cas pour l'ancien maire de Pékin qui avait détourné 2 milliards de dollars du gouvernement de fonds gouvernementaux et aussi d'investissements privés, étrangers et chinois, entre 1987 et 1995. Et en même temps que lui, est tombé tout un réseau de parentèles, de subordonnés politiques, administratifs, des dizaines et des dizaines de personnes. C'est aussi le cas, plus grand encore, d'un scandale qui a éclaté à Xiamen, une ville en face de Taïwan, sur la côte du Fujian, dont je vous parlais tout à l'heure, où là, c'est des milliards de dollars de contrebande qui alimentaient les bénéfices d'un ensemble, d'une bande, mais d'une vaste bande, dans laquelle étaient impliqués les responsables de l'armée, les responsables locaux de l'armée, des douanes, les autorités administratives et du parti dans la province, un certain nombre de trafiquants, et le réseau remontait jusqu'à Pékin par l'intermédiaire de l'épouse de la femme du premier secrétaire du comité du parti municipal de Pékin. Lequel étant un des collaborateurs directs de Jiang Zemin n'a pas été inquiété. C'est-à-dire qu'on a fait une grande enquête, on a arrêté beaucoup de gens, mais l'enquête s'est arrêtée à l'extérieur de la porte de Jiang Zemin. Donc on a un capitalisme, que je viens de vous décrire, très dynamique, mais à la fois cynisé par certains côtés spécifiques et dévoyé. Alors le problème, et ce sera le point de la conclusion, sur lequel je vais revenir dans la conclusion, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est dévoyé parce qu'il est cynisé ? C'est ce que, spontanément, beaucoup de gens arrivent à cette conclusion. Alors je crois quand même qu'il faut y regarder un peu plus attentivement. Le capitalisme chinois tel qu'il se présente à nous aujourd'hui est à la fois le reflet, la conséquence de la mondialisation. Le rôle des étrangers est essentiel dans son développement. Il est encore un capitalisme extrêmement extraverti. Mais quand même, et c'est l'autre aspect de ce capitalisme Janus, il s'enracine dans des traditions, en particulier celle de la première modernité chinoise, celle de l'âge d'or des années 1920, reconfigurées en fonction des contraintes et des attentes actuelles. C'est un compromis qui est né, il a fait un certain nombre de compromis avec des processus d'ajustement réciproque entre tradition et impératif économique moderne, mais tous ces compromis cadrent mal avec les catégories occidentales. Si bien que l'histoire du capitalisme en Chine dans le dernier quart de siècle, l'histoire récente, elle ne vérifie pas du tout le dogme libéral qui est celui de l'Occident, que le retrait de l'État amène l'expansion symétrique du secteur privé et que le développement de l'économie de marché est porteur de démocratie. On ne voit rien de tout cela dans la Chine actuelle. Le capitalisme chinois actuel, enfin, est entraîné dans une dérive criminelle qui est souvent attribuée à sa spécificité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut reconnaître que cette dérive est grave. Elle entraîne des contradictions qui deviendront sans doute de plus en plus aiguës avec l'ordre économique mondial, dont la Chine est maintenant partie prenante. Avec son entrée à l'OMC, il sera de plus en plus difficile à la Chine de ne pas respecter les règlements, les droits de douane, les brevets, etc. Et d'autre part, cette dérive entraîne aussi des risques internes d'involution, d'étouffement. L'anomie est stimulante dans les toutes premières phases du développement, mais par la suite, elle devient paralysante. Et on voit un certain nombre d'entrepreneurs chinois, maintenant en particulier des cinéastes ou des artistes, qui réclament leurs droits d'artiste, qui sont furieux de se voir pirater avant même que leur film ait été projeté pour la première fois. Les copies déjà circulent dans le public. Eh bien, maintenant, ce sont des Chinois, et pas seulement des étrangers, qui commencent à protester contre cet état de choses. Il y a là un risque d'étouffement pour les entreprises chinoises elles-mêmes. Alors, je reviens à la question que j'évoquais tout à l'heure. Peut-on rejeter cette dérive sur les traits spécifiques de ce capitalisme ? Certes, la ligne est facilement franchissable entre l'art des relations publiques et un certain nombre de phénomènes de corruption que l'on peut constater. Mais il faut bien constater aussi que des phénomènes, même genre de phénomènes, se poursuivent dans d'autres environnements culturels. Je ne développerai pas ce point, mais enfin, on sait que ça existe ailleurs. Donc, le lien n'apparaît pas absolument nécessaire, inévitable, entre ces deux traits du capitalisme chinois. Et de là, ce diagnostic qu'on porte sur cette situation découle le remède qu'on peut prescrire. Alors, pour la plupart des étrangers et des observateurs étrangers, pour un certain nombre, mais une petite frange d'intellectuels chinois, le remède consiste dans le redressement, enfin, dans l'établissement d'un gouvernement démocratique. Pour la plupart des observateurs en général, il y a là un problème de gouvernement, il faut intervenir au niveau du gouvernement pour modifier le cadre dans lequel se développe ce capitalisme. Donc, en établissant un gouvernement démocratique, ça, c'est la thèse défendue, je vous disais, par un certain nombre d'observateurs occidentaux, aussi un certain nombre assez limité d'intellectuels chinois. En établissant un gouvernement moral, et ça c'est ce que disent la plupart des Chinois, dirigeants et population confondus. Il y a dans la population un désir de voir les choses changer, un dégoût de la corruption qui est extrêmement profond, et c'est aussi le discours que tiennent la plupart des dirigeants chinois, un discours qui n'est pas toujours suivi des faits, mais il y a eu quand même beaucoup de campagnes contre la corruption, campagnes assez inefficaces, il faut le dire, et on ne peut être que frappé par le ton des discours du nouveau secrétaire général du Parti communiste chinois, donc M. Hu Jintao, qui a succédé au dernier congrès à M. Jiang Zemin, et qui développe les thèmes de l'austérité, les thèmes du sérieux, du travail, pas du tout des thèmes accordés à l'exubérance de la Chine côtière. Donc, gouvernement démocratique pour les uns, gouvernement moral. Je pense qu'on peut aussi avoir une troisième option qui s'appellerait le gouvernement moderne. Actuellement, le pouvoir central, l'État chinois n'est pas un État moderne. Je ne reviens pas ici, mais j'évoque en tout cas les thèses développées par Yves Chevrier, thèses sur lesquelles vers lesquelles je m'orienterai aussi volontiers. On a un État qui n'est pas moderne, un État qui est à la fois trop faible parce qu'il n'arrive pas à faire appliquer ses réglementations, et un État qui est trop brutal, par ailleurs, et souvent trop arbitraire. Donc, moderne, pas forcément démocratique, ce n'est pas équivalent, mais doté de services réguliers, efficaces, prenant en compte des intérêts autres que les siens propres. Yves Chevrier a expliqué toutes les conséquences du retard de la construction de l'État en Chine et la nécessité urgente d'y remédier. J'abonderai dans ce sens. Si par un moyen ou un autre la dérive est redressée, le capitalisme aux couleurs chinoises pourra peut-être, en s'épanouissant, faire naître des convergences que des observateurs trop impatients ou trop ignorants ou trop peu soucieux de l'histoire ont cru pouvoir diagnostiquer dès 1989, à tort, au moment du mouvement de Tiananmen, mais qui existe bel et bien, comme on peut le voir, à Taïwan, en Corée du Sud, par exemple. Je vous remercie.
Bonjour. Voilà, moi j'ai une question parce que vous avez parlé de la Côte Dorée, des 10 provinces qui font la richesse de 34, mais en fait les 34 ne profitent pas de cette richesse. Je voulais savoir si le fait que seules 10 provinces profitent du capitalisme à la chinoise tel que vous nous l'avez décrit ne formera pas un frein à terme au développement de la Chine entière et ne provoquera pas des tensions.
Oui, c'est évident, elles sont déjà là, les tensions, elles sont même extrêmement vives entre cette Chine intérieure où dominent encore beaucoup de, souvent les formes d'entreprises publiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu les ressources pour développer un capitalisme privé. Ceci dit, il y a quand même assez lentement une diffusion de la modernité des entreprises vers la Chine de l'intérieur. Cette diffusion elle est appuyée par la politique gouvernementale qui a depuis déjà plusieurs années comme slogan « développer l'Ouest ». Ceci dit, quand on va vers ces villes de l'Ouest, par exemple Chongqing, qui est la province, la capitale du Sichuan, tout à fait à l'ouest de la Chine, près du grand barrage des Trois Gorges que l'on est en train d'achever, on voit arriver peu à peu cette modernité, mais enfin c'est à coup de subventions publiques. Les entreprises privées n'y sont pas encore très florissantes. Il y en a pourtant quelques-unes. Chongqing est le détroit de la fabrique, enfin est à la fabrication des motocyclettes, ce que Détroit était la fabrication des automobiles jadis. Il y a donc deux grands entrepreneurs privés qui ont des grandes entreprises de motocyclettes, dont l'un travaille la main dans la main avec le gouvernement, passant 50% de son temps à fréquenter les hommes politiques et à régler des problèmes politiques de manière à avoir les appuis nécessaires, et dont l'autre refuse absolument d'avoir tout contact politique et qui dit que c'est de la perte de temps et qui travaille donc sur des bases d'une entreprise plus privée.
Si je ne m'abuse, dans aucun classement mondial, on ne trouve ou je n'ai trouvé d'entreprise chinoise. Est-ce que parce que c'était une fermeture, qu'on risque de les voir maintenant avec l'entrée dans l'OMC, ou alors que l'on n'est pas encore arrivé à cette masse critique?
C'est très difficile pour les entreprises privées d'arriver justement à cette masse critique à cause de leurs problèmes de financement. Et puis parce que lorsqu'elles deviennent très puissantes, elles sont aussi toujours très vulnérables. Et l'on voit un certain nombre de très grands entrepreneurs qui chutent. Le Capitole et la roche tarpéienne, pour eux, sont extrêmement proches. Et je vous parlais du roi de la tulipe, il est maintenant en état d'arrestation. Alors, étant donné la manière dont fonctionne ce capitalisme, il y a toujours des crimes ou des infractions que l'on peut relever contre les entrepreneurs privés. Et apparemment, aussitôt qu'ils prennent une certaine importance, ils ont des problèmes de survie, à la fois pour leur entreprise et pour eux.
Oui, l'État chinois encourage le développement du capitalisme, mais le capitalisme suppose des infrastructures importantes, des routes et surtout des télécommunications aujourd'hui. Quel est votre avis, ce rôle de l'État? Est-ce qu'il est très fort ou c'est encore de la débrouille?
En ce qui concerne les infrastructures, il y a des progrès absolument gigantesques, d'autant plus que depuis la crise asiatique, il y a eu à un moment un fléchissement d'exportation, il y a eu un fléchissement de la consommation intérieure. Donc un des grands moteurs de la croissance depuis 1997-1998, ce sont les injonctions absolument massive des capitaux publics dans des secteurs justement comme les travaux publics où il y a des grands travaux d'infrastructures énormes. Lorsqu'on se promène en Chine, qu'on voit par exemple, j'ai descendu il n'y a pas très longtemps le Yangtze, je l'avais déjà descendu il y a bien longtemps, il y avait un pont, un seul pont à Hankou, dans la ville qui est au centre. Et maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de ponts sur le Yangtze. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas l'électricité sur les rives. Maintenant, elle y est. Donc, il y a un très gros effort d'infrastructure. Ceci dit, ça se fait avec des fonds publics. Les retours sur investissement ne seront sans doute pas très rapides. Et ça devrait quand même servir au développement des entreprises plus tard. Mais enfin, pour l'instant, c'est un peu casse-cou.
J'ai deux questions à vous poser. La première, je crois savoir que le citoyen chinois ne paie pas d'impôts. Donc, lorsque vous avez un jeune couple bien éduqué, avec une excellente santé, il est très facile de s'enrichir travaillant à deux, bien souvent avec un enfant qui est gardé par un autre membre de la famille. Donc j'ai vu autour de moi des jeunes couples d'une trentaine d'années en être à acheter leur deuxième appartement neuf, notamment en le payant cash, c'est-à-dire sans crédit, alors que le deuxième n'est pas dans un immeuble ou une résidence qui n'est pas encore tout à fait terminée. Donc, jusqu'à quand ce système va pouvoir continuer? Ça, c'est ma première question. La deuxième, et j'ai vu l'intervention de beaucoup de sociétés étrangères qui employaient du personnel, du jeune personnel qualifié sortant des grandes universités chinoises et les payant nettement mieux que, par exemple, les entreprises chinoises, mais néanmoins certainement à un moindre prix que s'ils employaient des gens de la même nationalité. Alors, ce que je crains, n'y aurait-il pas un retour quelque part de l'entreprise étrangère voulant mettre un peu le grappin sur la Chine? Bien sûr, pas au même niveau où c'était dans les années 1930, où il y avait les concessions internationales, les concessions françaises, par exemple à Shanghai. Mais c'est un petit peu un danger parce que, évidemment, le nouveau capitaliste, les nouveaux Chinois riches sont intéressés déjà par justement cet apport d'argent qu'ils gagnent en travaillant dur, certes, mais qui apparaît beaucoup plus facile à gagner que s'ils sortent des entreprises chinoises elles-mêmes. Alors voilà les deux questions.
Je vous remercie. Dans la première, vous évoquez effectivement ces couples de jeunes Chinois bien formés qui n'ont aucun mal à trouver du travail, à gagner de l'argent. Parmi eux se recrutent d'ailleurs un certain nombre de chefs de jeunes entreprises dans des domaines technologiques avancés et se recrutent beaucoup des gestionnaires, soit des entreprises chinoises, soit des entreprises étrangères. Donc ils sont une des sources possibles des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs actuels chinois. Quant au problème des impôts, l'évasion fiscale est un problème absolument général. Les Chinois les plus riches ne payent pas d'impôts. Alors on fait la chasse parce que quand même, quand ils sont très riches, ils doivent en payer un petit peu, une tranche supérieure de revenus qui est imposée. Et les entreprises non plus ne payent pas d'impôts, ou très peu. Il y a une évasion fiscale généralisée. Et c'est ce à quoi je faisais allusion en conclusion quand je disais que la réforme de l'État, l'installation d'un État moderne capable de faire fonctionner ses rouages administratifs, y compris la perception des impôts, est quelque chose de vital si on veut que le capitalisme et la réforme et la modernisation, les développements se continuent. La seconde question portait sur... les salaires des jeunes Chinois employés par les entreprises étrangères. Oui, il est très élevé. Il est 3 ou 4 fois supérieur à au salaire que gagnent leurs parents qui sont restés dans les entreprises publiques plus ou moins déclinantes. Donc il y a là une situation qui est liée au fait que ces jeunes savent parler l'anglais, ont été formés au point de vue technologique. Je crois qu'ils ont en général d'assez bonnes situations. Enfin, je n'ai pas d'expérience directe du fonctionnement des entreprises étrangères en Chine, mais je vois qu'à Shanghai, par exemple, beaucoup de ces jeunes gens bien formés préfèrent avoir des postes de gestionnaires très élevés, avec de bons salaires donc, y compris dans les entreprises étrangères, plutôt que de créer leurs propres entreprises. Et ça, c'est une grosse différence avec ce qui se passait à Shanghai dans les années 20 ou 30, où les gens étaient vraiment très prêts à se lancer, à prendre le risque, à parier sur l'innovation, à parier leurs capitaux sur l'innovation. À Shanghai, de nos jours, cette jeunesse très bien formée est plus hésitante. L'esprit entrepreneurial ne semble pas l'inspirer, même si par ailleurs, elle est très compétente pour la gestion. En revanche, cet esprit entrepreneurial, on le retrouve beaucoup dans le sud de la Chine, où on retrouve un tissu de PME extrêmement dense, un peu comme il y en a à Taïwan et à Hong Kong. Donc je crois que ça dépend un peu des régions.
Le jour où la Chine arrivera au stade de la société de consommation, certaines ONG écologistes craignent un peu l'impunité du comportement de certaines entreprises. Alors voici ma question. Est-ce qu'il y a une conscience des risques environnementaux encourus par la planète en Chine, aussi bien par la population que chez les cadres du parti? Est-ce qu'il y a des politiques environnementales?
Ah oui, je crois que maintenant il y en a, parce que c'est pas difficile de prendre conscience de ce risque lorsqu'on se promène en Chine. C'est une vraie catastrophe écologique. Ce capitalisme sauvage, dans ses débuts, a créé des ravages incroyables en ce qui concerne l'eau, les réserves d'eau, la qualité de l'eau, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, en ce qui concerne le rejet des produits toxiques. C'est vraiment, personnellement, je pense que c'est un des problèmes qui actuellement est le plus grave pour le développement de la Chine. Et je crois que, c'est pas très difficile de s'en apercevoir. Il y a un certain nombre d'associations privées, des citoyens qui se sont constitués pour la défense de l'environnement en prenant, souvent patronnés par des avocats, qui essayent de développer justement les procès contre les entreprises qui polluent. Ceci dit, si ces entreprises sont liées aux autorités locales, les procès n'ont que très peu de chances d'aboutir. Il faut y revenir à plusieurs reprises. Enfin, c'est pas très facile encore, disons, pour les mêmes raisons que celles qui font que l'environnement institutionnel et juridique en général n'est pas très favorable, mais l'État aussi en a pris conscience. Il y a des actions officielles qui s'amorcent, qui se développent. Je crois que la prise de conscience est faite. Reste à opérer le reste. Ça demande de l'argent. C'est pas toujours très facile. Là, je vous le disais, j'étais sur le Yangtze il n'y a pas très longtemps. On va mettre en eau le barrage des Trois Gorges et toutes ces rives vont être inondées. On a dynamité les villes. Il y avait plein d'usines, il y avait plein d'hôpitaux, il y avait plein d'établissements divers. Et vraisemblablement, les ruines ne seront pas désinfectées, disons. Donc la réserve d'eau viendra s'installer sur ces ruines non désinfectées, avec tous les risques que ça comporte. Donc il y a beaucoup d'opérations comme cela qui demanderait peut-être trop d'argent, mais je crois quand même que la conscience en est très vive. Donc peut-être que l'action suivra.
J'aimerais avoir votre avis sur le danger qui apparaît pour moi et qui se creuse entre la masse rurale paysanne qui est tenue à l'écart de cet enrichissement économique et la population des nouveaux enrichis des villes. Qu'en pensez-vous? J'ai été frappée lors de mon voyage justement par des villages qui n'évoluaient pas du tout. C'est à peine si on pouvait d'ailleurs s'y arrêter, ce n'était pas officiellement pas souhaitable. Et donc ces nouveaux riches dont vous parlez.
Vous avez tout à fait raison. La réforme a d'abord été, dans une première phase, mais limitée dans le temps, favorable aux campagnes au début des années 80. Mais très vite, l'ancien rapport s'est rétabli et les campagnes sont vraiment, sauf celles qui sont juste en arrière des villes où il y a des phénomènes de rurbanisation et où les entreprises essaiment, mais dans les campagnes un peu plus reculées, les choses n'évoluent pas ou évoluent très lentement, très très lentement. Elles évoluent un petit peu, mais très lentement. Il y a un énorme fossé entre ces campagnes et les villes, et ça se traduit par la migration de millions, une centaine de millions au moins de ruraux qui, après la suppression de l'exploitation collective, sont restés sans travail pratiquement dans les campagnes et qui viennent chercher du travail en ville où ils n'ont aucun droit légal, Il y a en Chine encore un système d'enregistrement que l'on appelle le Ruko, qui fait que vous devez vivre là où vous avez été enregistré à votre naissance. Il est beaucoup moins rigoureusement appliqué qu'il ne l'était, mais théoriquement quand même, ils arrivent à la ville sans être enregistrés, sans avoir de résidence urbaine légale, et par conséquent, ils sont dépourvus de tout droit. C'est vraiment les soutiers du miracle chinois, c'est le sous-prolétariat de la Chine, ce sont leurs paysans qui arrivent comme ça, et évidemment, ça crée de graves problèmes sociaux, et pour eux, très peu d'espoir de s'en sortir, quelques petits entrepreneurs, quelques-uns qui s'en sortiront, mais quand on les voit, les enfants n'ont pas d'éducation, l'école est payante parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, parce qu'ils ne sont pas inscrits régulièrement dans les villes, etc. Donc, ils n'ont pas le droit de se faire soigner. Il y a toute une série de conditions qui en fait vraiment des sous-sous-prolétaires. Ceci dit, si ça constitue un fléau social, un plus pour l'économie, parce que tous les grands buildings, tout ça, c'est cette main-d'œuvre qu'ils construisent. C'est un fléau pour la société, parce qu'il y a des centaines de millions, au moins une centaine de millions, qui sont sur les marges de la société, qui vivent de façon vraiment très, très affreuse. Au point de vue politique, ça ne constitue pas un danger aussi grand que la présence des chômeurs qui ont été congédiés des anciennes entreprises publiques, qui sont plus concentrés dans les villes, qui sont une conscience plus organisée, qui font des manifestations. On voit les manifestations d'ouvriers, il y en a beaucoup, et de chômeurs dans le nord-est, qui était la zone en Mandchourie, où il y avait les principales usines d'État de sidérurgie, les industries lourdes, qui sont maintenant des industries rouillées, des industries à l'abandon, et dont les chômeurs ne sont pas indemnisés, puisqu'il n'y a pas de système de protection sociale généralisé en Chine. Donc il y a là, parmi ces ouvriers, beaucoup plus de capacité de mobilisation que parmi ces migrants ruraux qui vont d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, qui sont vraiment des gens abandonnés.
Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que les Chinois ne payaient pas d'impôts. Alors d'où l'État chinois tire-t-il sa richesse ?
Théoriquement, il y a quand même des impôts, parce que les entreprises sont censées payer des impôts. La tranche la plus riche de la population est censée payer des impôts. Les impôts sont négociés. Le taux varie d'une région à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Il y a donc toute une série de négociations pour essayer d'obtenir un peu d'argent. Mais c'est vrai que l'État a du mal à passer du système qui était le sien auparavant, puisqu'avant il était essentiellement financé par le revenu des entreprises d'État. Maintenant qu'il n'y a presque plus d'entreprises d'État, eh bien, il faut substituer des revenus fiscaux, et ça, le système fonctionne mal. Et les grands investissements qui ont été faits depuis 1997, ces investissements dans les travaux publics que j'évoquais tout à l'heure, pour maintenir le moteur de la croissance en marche, pour essayer qu'il ne descende pas au-dessous de 7%, c'est le niveau au-dessous duquel on estime que le régime serait vraiment en danger, eh bien ces grands investissements commencent à creuser des trous dans le budget, et le déficit budgétaire, qui jusqu'ici n'existait pas en Chine, commence à prendre des proportions assez importantes. Donc il y a là aussi un problème pour le proche avenir.
Marie-Claire Mergère, merci.